Le Zoom de l'info. Interview. Décryptage de l'actualité des territoires.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Zoom des territoires, le Zoom de l'info. Et justement, nous allons parler tendance, nous allons parler innovation, ville de demain. Pour ce faire, j'ai la chance d'avoir deux invités avec moi en plateau. À ma gauche, Marion Appert, bonjour.
Bonjour.
Directrice d'Urban Lab. Et à ma droite, Phébé de Souza Passos, chef de projet Observatoire d'Urban Lab.
Bonjour.
Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. On va déjà présenter Urban Lab, la plateforme dédiée à l'innovation urbaine de Paris & Co. Et déjà, qu'est-ce que Paris & Co?
Oui, alors Paris & Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation à l'échelle de Paris, mais également de la métropole parisienne. Donc voilà, c'est une institution qui compte une centaine de collaborateurs. Et dans cette institution, vous avez l'Urban Lab, une équipe de 16 collaborateurs dédiés aux enjeux de la transition urbaine.
Et alors justement, vous accompagnez les acteurs qui pensent, qui imaginent la ville. Alors vous allez justement nous expliquer, il y a plusieurs entités dans Urban Lab.
Oui, tout à fait. Alors notre défi, c'est de rendre la ville plus attractive mais aussi plus durable. Et pour cela, on a la chance d'avoir des moyens importants puisqu'on dispose d'un incubateur de start-up, d'un laboratoire d'expérimentation urbaine, d'un observatoire des tendances dont on va parler et même d'un programme dédié à l'innovation sociale. Donc c'est assez riche.
Le laboratoire, quand vous dites laboratoire, qu'est-ce que c'est? On s'imagine des personnes en blouse blanche avec des, des fioles.
Alors c'est tout l'inverse. En fait, c'est la rigueur du scientifique, mais c'est des projets qu'on va tester et qu'on va tester à l'épreuve du terrain. Donc ça va être un nouveau concept de solution. Je vous prends un exemple, la poubelle de demain. Au lieu de l'imaginer dans un laboratoire fermé, on va se dire, on va l'imaginer au contact des riverains. Donc on va travailler le prototype, le déployer dans l'espace public et surtout recueillir la parole du riverain pour savoir si c'est une innovation qui fonctionne et qui plaît.
Oui, parce qu'on parlait des acteurs, les riverains font partie aussi des acteurs. Il y a pas, bon, vous avez évoqué les startups, il y a aussi les collectivités locales, territoriales, les entreprises. Voilà, c'est toutes les parties prenantes de la ville durable qui pensent et innovent pour la ville. Donc, vous êtes la directrice d'Urban Lab. Phébé, vous occupez donc de l'observatoire, chef de projet observatoire. Qu'est-ce que l'observatoire d'Urban Lab?
Tout à fait. Alors l'Observatoire à l'Urban Lab, il agit de façon transverse justement à ces trois programmes dont Marion vient de parler. Et il va venir en fait prendre du recul sur tout ce qui se fait au sein de l'Urban Lab et aiguiller un besoin en fait grandissant de nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, dans leur stratégie d'innovation urbaine. Et pour cela, on va les accompagner, ces acteurs, sur différents formats, individuels ou collectifs. Et ça peut prendre la forme d'ateliers métiers, de groupes de travail sur l'année, de conférences, de prises de parole et de recommandations stratégiques de manière plus large.
D'accord. Et alors là, vous parlez du coup de cette envie qu'on ressent. Hein. C'est vrai qu'on l'a de plus en plus de transformer la ville. C'est encore plus présent depuis les derniers confinements ou c'était déjà bien avant, mais est-ce que ça s'est intensifié?
Oui, je pense que le confinement a été un accélérateur de tendances qui étaient déjà présentes, à savoir un envie de nature, une envie aussi de prendre soin les uns des autres. Donc les liens de proximité ont été renforcés. Ou disons qu'on a eu envie de se connecter de plus en plus aux autres personnes qui vivent dans le même espace. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces solutions pour apporter plus de nature en ville, plus de services et plus de proximité.
Alors on va parler des tendances dans quelques instants. Vous, au quotidien, qu'est-ce que vous faites en fait, Marion?
Alors, une journée type, ça va être une journée qui va consister à piloter cette équipe qui est composée de ces 16 personnes et qui est au contact de tout cet écosystème. Donc d'abord, les porteurs de projets. Les porteurs de projets, c'est des startups, des PME, des grandes entreprises, même des associations. Et on va les aider à mûrir leurs projets pour qu'ils puissent ensuite diffuser leurs services le plus largement possible. Donc on est un peu comme des coachs. Et on est également des coachs pour des grandes entreprises, notamment à travers l'Observatoire, qu'elles soient publiques ou privées, et même les collectivités. Donc on va essayer de réfléchir avec eux aux actions qu'ils conduisent, les aiguiller dans leur stratégie d'innovation, voire même favoriser des collaborations entre eux ou entre eux et ces structures qui innovent. Donc tous ces acteurs qui osent se lancer pour changer la ville et l'améliorer. Donc ça, c'est un peu notre quotidien.
Au final, les personnes que vous accompagnez viennent, enfin, c'est des origines un peu vastes. Il y a des petites start-up, des grosses entreprises. Est-ce que l'accompagnement est le même ou est-ce que ça varie en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'entreprise ou de la collectivité? Est-ce que ça varie beaucoup ou c'est un peu le même accompagnement?
On va s'adapter. Donc, par exemple, une start-up va avoir des enjeux de business, de communication qui lui sont propres, de croissance aussi. On va également s'adapter quand on accompagne des associations. C'est pas les mêmes enjeux. Par exemple, une association, elle va se demander comment fédérer ma communauté de bénévoles. Donc c'est complètement différent. Quel est le statut juridique qui va me permettre de grandir de façon viable? Les grandes entreprises, c'est la même chose. Évidemment, c'est pas les mêmes rouages, c'est pas la même politique interne, c'est pas les mêmes enjeux. Donc on a à chaque fois un accompagnement qui est dédié, de la même façon qu'on accompagne aussi les collectivités avec un accompagnement qui est propre. Donc on essaye de comprendre leur fonctionnement, leurs besoins et on s'adapte.
Un accompagnement donc sur mesure. Nous parlions des tendances, justement. Alors, quelles sont les tendances émergentes de la ville durable, de la ville de demain?
Alors, c'est une grande question et qu'on a essayé de se poser l'année dernière pour refléter en fait tout ce qui se trame dans la ville aujourd'hui et ce qui se dessine pour la ville de demain. Donc, c'est un travail qui a été réalisé en fin d'année 2021 sur l'année 2022. Donc, on a des tendances, on a dessiné 10 grandes tendances, avec des tendances plus de fond qu'on connaît bien, comme la ville circulaire, oui. Dans le bâtiment, dans l'essor de construction, avec des remplois de matériaux.
Oui, circulaire, en fait, ça veut dire que rien ne se perd, tout se transforme, en fait.
Exactement, que ce soit en consommation, en déchets, etc. Des tendances de fond aussi, comme la ville post-carbone, dans la construction bas carbone, le bâtiment comme on le connaît, et pareil pour les mobilités, mobilité douce, avec tout cet essor-là. Et des tendances plus récentes qu'on a essayé aussi de mettre en avant, comme la chronotopie. Alors la ville chronotopique, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais nous on entend par là une ville qui permet le multi-usage de ses espaces, et donc par là aussi l'optimisation des espaces existants pour plusieurs usages à différentes temporalités de la journée ou de l'année ou de la semaine. Et on voit de plus en plus de lieux et d'acteurs qui s'emparent de cette chronotopie. Et même nous, dans nos bureaux, on le pratique le soir ou à midi. On a des cours de sport qui sont proposés dans nos bureaux et c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus.
Oui, il y a des gros acteurs le font. Hein. Il y a par exemple une célèbre salle de spectacle qui, la journée, transforme les locaux en coworking. Donc c'est vrai que ça se fait de plus en plus et tout le monde s'y met.
Tout à fait. Et une autre tendance qui vient aussi souligner cet aspect de la ville qu'on veut, ou en tout cas qu'on souhaite de plus en plus sobre, c'est la ville low-tech. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un concept qui vient en fait un peu remettre à sa place le tout technologie et la course effrénée à la high-tech. Non pas pour effacer totalement la technologie de nos villes, mais pour en tout cas intégrer un discernement dans cette technologie et de pouvoir se réapproprier en fait nos villes, nos fonctionnements et les technologies pour qu'elles soient abordables et compréhensibles de tous et par tous. Et c'est un concept dont s'emparent de grands acteurs, de grands bâtisseurs de la ville privée et publique. On va en parler tout à l'heure. On a un groupe de travail à ce sujet-là justement cette année dont on va retirer les enseignements très bientôt.
Donc des tendances prometteuses, innovantes, mais d'où elles viennent ces tendances? Qui les imagine? Qui se dit bon bah tiens, on va faire une ville circulaire? Enfin, d'où ça vient?
Alors là-dessus, je pense qu'il y a évidemment plusieurs facteurs d'explication. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des transitions qui sont en cours et qui vont directement impacter notre marché et qui font que on accompagne plein d'innovateurs qui ont des convictions qui sont fortes, mais ils ont aussi besoin d'avoir un marché qui est porteur. Et ce marché, il peut être porteur pour plusieurs raisons, notamment les transitions qui sont fortes. Et en ce moment, moi, je vois trois transitions qui sont vraiment structurantes. La transition écologique, évidemment, on se rend compte qu'il y a un enjeu de raréfaction des ressources, il y a un enjeu de changement climatique, de réchauffement, de perte de biodiversité. Donc ça donne envie à beaucoup d'acteurs de se saisir de cette urgence et d'apporter des réponses. Il y a aussi une transition qui est forte, c'est la transition numérique. On est tous maintenant avec notre iPhone ou notre smartphone à la main. On a pléthore d'applications qui orientent notre consommation de services et aussi qui vont avoir un impact sur la ville. On pense tous aux trottinettes qui sont un beau jour arrivées et qui ont posé plein de questions à la collectivité sur est-ce qu'on accompagne ce mouvement ou est-ce qu'au contraire, on le restreint. Donc ça pose plein de questions comme ça. Et une dernière transition qui est clé, c'est la transition démographique. On sait que notre population est vieillissante. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ce mouvement? Quels services on propose à ces acteurs? Donc ça, c'est un peu un cadre général. Et puis en parallèle, il y a deux autres choses qui sont clés. Le cadre réglementaire, en fait, il y a des lois qui sont passées.
Qui apparaissent, ouais.
Exactement, et qui vont évidemment orienter la conduite des acteurs. Je pense à la RE 2020, je pense à la loi climat et résilience. Mm-hmm. Ça pose des questions de rénovation thermique, de zéro
artificialisation. Des contraintes,
au final. Oui, exactement, net. Et ça, ça va cadrer la pratique des professionnels et des innovateurs. Et puis enfin, il y a parfois certains besoins qui sont exprimés par la population. Et donc, on a aussi des innovateurs qui vont essayer d'y répondre. Donc voilà, c'est un faisceau de facteurs qui font qu'à un moment, il y a des gens qui vont se dire « Allez, moi aussi, je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux apporter une réponse à ces transitions, à ce marché, à ces règlements. » Et donc, voilà, c'est ce qu'on accompagne.
Donc, de nombreux acteurs essayent, tentent, font bouger les choses, font avancer les choses pour la ville de demain. Alors, ces acteurs, qui sont-ils au final ?
Alors, on a des acteurs qui sont très variés. Donc, on a aujourd'hui 35 partenaires. C'est des grandes entreprises publiques et privées. Ça va des aménageurs, comme Grand Paris Aménagement, par exemple, à des constructeurs, en passant par des énergéticiens. On travaille avec GRDF, par exemple.
D'accord.
On travaille également avec la RIVP, qui est un bailleur social. Donc, voilà, on a vraiment un champ qui est assez large. On va travailler sur les enjeux aussi des déchets, avec Citeo, par exemple. Donc, tous les acteurs qui incarnent ces métiers de l'urbain, on les a autour de la table et c'est une grande richesse que de les faire se rencontrer et d'essayer de co-construire ensemble. Et après, on a des acteurs qui sont voilà, des start-up, mais aussi des associations hyper locales qui vont avoir un très très beau projet, mais qui vont avoir besoin d'un accompagnement pour grandir, pour se structurer. Donc des projets de ressourcerie, des projets de tiers-lieux, des projets de radio dans des quartiers. Voilà, il y a un peu de tout. C'est très varié.
Est-ce que vous avez l'impression que vraiment tout le monde joue le jeu? Tous les acteurs, ceux que vous accompagnez et d'autres, est-ce que c'est vraiment un besoin pour tout le monde de jouer le jeu profondément, intrinsèquement, ou c'est parce qu'ils, voilà, on sera obligé de le faire tôt ou tard? Est-ce qu'ils ont foi en ce projet?
Alors, les entrepreneurs qu'on accompagne, notamment ceux qui investissent toutes leurs économies et qui, pendant 2 ans, parfois, ne se payent pas, oui, je pense qu'ils y vont pas.
Ils y croient.
Ils y croient. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les innovateurs qu'on coach au quotidien, bien sûr. Et dans nos partenaires, je dirais que c'est la même chose. En tout cas, les interlocuteurs qu'on a, c'est vraiment des pionniers qui, parfois, ont la chance d'être dans des entreprises qui sont déjà alignées avec leurs valeurs et qui bougent. Et parfois, ça va être des acteurs qui prennent leur bâton de pèlerin et vont essayer de changer leur entreprise, notamment sur la low-tech. On a rencontré des super acteurs qui sont convaincus et qui font un travail d'acculturation en interne qui est juste incroyable parce que ça demande une énergie qui est folle.
Et c'est ça. Et souvent, on voit que ça peut partir d'une seule personne, de la conviction d'une personnalité au sein d'un grand groupe. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, ça fait effet boule de neige en interne et qu'on peut ensuite aller convaincre toute une direction générale et même parfois tout un secteur et une filière. Et ça a été le cas pour certains de nos partenaires.
Ah oui.
Et c'est une des tendances aussi qu'on a observées dans des travaux qu'on a réalisés sur un autre sujet, sur le changement d'échelle de l'innovation urbaine. Et c'était le premier facteur, en fait, le premier enjeu qu'on a soulevé de toutes nos discussions avec porteurs de projets, grands groupes, entrepreneurs. C'est l'humain, en fait, qui est au départ de toute innovation et de toute envie d'innover.
Et donc, il suffit qu'une personne soit motivée pour embarquer tout le monde.
Souvent, ça part comme ça, en tout cas.
Ah oui, c'est dingue.
Je ne sais pas s'il suffit, mais en tout cas, le prérequis, c'est qu'il y ait cette personne.
Qu'il y ait au moins une personne qui y croit. Et après...
Après, oui, il y a d'autres enjeux, d'autres freins qu'il faut réussir à lever, mais c'est le premier, en tout cas.
On va faire un focus sur la ville sobre. Alors, qu'est-ce que la ville sobre, déjà ?
Alors, c'est une vaste question. Je ne sais pas s'il y a une définition. Je pense que Phébé va pouvoir expliquer à travers la low-tech, mais la ville sobre, c'est en tout cas une ville qui est consciente de ce qu'elle consomme pour fonctionner. Donc dans son fonctionnement, ça va être la gestion des déchets, par exemple, pour construire aussi, qui va être soucieuse des ressources utilisées et qui va être soucieuse de optimiser l'existant plutôt que de construire toujours plus. Donc ça, c'est un élément de définition. Après, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Peut-être que Phébé, tu veux quand même compléter.
Oui, c'est ça. La ville sobre, en tout cas, nous, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est celle qui fait preuve de discernement, mais à plusieurs égards. Et quand on parle de low-tech notamment, ça fait aussi écho au fait que la Smart City, on en revient un petit peu, et c'est en tout cas ce que nous disent aussi nos partenaires, alors qu'ils font partie de grands groupes dont on peut penser que pour eux la Smart City veut tout dire, mais en fait
ça regroupe plein de choses en final, la Smart City.
Exactement.
C'est un peu,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en tout cas faire preuve de discernement dans une course effrénée à l'innovation, à la technologie, au toujours plus, au toujours trop. Et faire refléter ça en fait dans nos villes, dans nos usages de nos espaces, dans notre construction, dans nos réhabilitations de bâtiments aussi. Et c'est en tout cas la mission qu'on s'est donnée dans ce groupe de travail qu'on mène.
Dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà, sur la low-tech avec notre consortium d'acteurs très engagés. On a autour de la table des partenaires qui croient beaucoup en ce concept de la ville, en tout cas plus sobre.
Oui, donc c'est la ville de demain, du coup.
On espère. Après, la low-tech, ça implique beaucoup, beaucoup de choses différentes. Mais aujourd'hui, ça a mené à beaucoup de réflexions et on a réussi à exhumer beaucoup de solutions qui sortent du passé, en fait, qui existent déjà, et du présent aussi, dans beaucoup de secteurs différents. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément la course au trop d'innovation et à la trop technologie qui fait que la ville de demain sera sobre.
Oui, c'est pas forcément ça qui joue en fait.
Non. D'accord. Peut-être pour incarner, donc on a eu un gros travail pour identifier des solutions qui sont pertinentes. Oh. On a même fait un podium des 10 concepts qui nous semblent les plus pertinents au niveau de la low-tech. Donc, on va bientôt dévoiler. Et peut-être pour rendre ça plus tangible, il y a vraiment, par exemple, comment on évite d'avoir la clim de façon systématique dans tous les bâtiments. Donc, quelles sont les solutions pour faire baisser la température? Ça peut être des brises-soleil. Donc, c'est des choses qu'on voyait à une époque très fréquemment. Hein. C'est des stores qui sont en tissu, ouais, qui permettent de couper le soleil.
Ouais. Et couper les rayons.
Qui marchent assez bien. Il y a comment aujourd'hui on crée des pavés qui vont être issus du réemploi, donc avec des matières qui sont issues d'autres chantiers, et on va les concaténer de sorte que voilà, il y a une boucle circulaire. Ça va être voilà tout un ensemble de choses pour apporter plus de confort et de nature, mais de façon différente.
Plein de choses à faire, donc une conclusion, un mot pour conclure, peut-être sur votre actualité ou sur, je sais pas, Marion, Phébé.
Dans l'actualité du moment, vraiment du mois, on a notre du coup restitution de ce groupe de travail low-tech qui va arriver le 21 juin prochain. Donc c'est tout un travail qui a été mené sur plusieurs mois depuis la fin de l'année 2021 avec ce consortium d'acteurs et de bâtisseurs de la ville qu'on viendra restituer avec donc ce podium de 10 grands concepts low-tech qui, selon nous, pourront façonner la ville de demain. Couplé à cet événement, on va rédiger et sortir un manifeste, et c'est vraiment, ça faisait partie de l'engagement de ces acteurs-là, et c'était vraiment leur souhait de vouloir et de pouvoir appeler à l'action, en tout cas pour une ville plus sobre, pour un discernement là-dessus, technologique et autres. Et du coup, ce sera le moment de signer ce manifeste par les directions générales de ces groupes-là. Et donc, ça va être un très bel événement, et on l'espère que ça va donner suite à beaucoup de choses, notamment un atterrissage opérationnel de ce groupe de travail, parce que on a aussi des acteurs en face de nous qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet, mais qui aujourd'hui, veulent agir low-tech. Et on en parlera, je pense, dans les prochains mois.
Affaire à suivre. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on y croit à cette ville de demain, à ces innovations, grâce à vous, en tout cas aussi, Urban Lab, donc la plateforme dédiée à l'innovation urbaine de Paris & Co. Merci Marion Appert.
Merci beaucoup.
Merci Phébé de Sousa Passos.
Merci à vous.
Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Zoom de l'Info.
Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité des territoires. Une émission à réécouter et télécharger sur radioterritoria.fr, l'application mobile Radio Territoria et tous les agrégateurs de podcasts.